mettre son budget à leur servir des crêpes. Elle triomphait, elle riait de leur rire. Pascal et Clotilde trouvaient tout très bien, ce qui ne les empêchait pas de la plaisanter quand elle n'était pas là. Les anciennes moqueries sur son avarice recommençaient. Il prétendait qu'elle comptait les grains de poivre, tant de grains par chaque plat, histoire de les économiser. Quand les pommes de terre manquaient par trop d'huile, quand les côtelettes se réduisaient à une bouchée, ils échangeaient un vif coup d'œil. Ils attendaient qu'elle fût sortie pour étouffer leur gaieté dans leurs serviettes. Ils s'amusaient de tout. Ils riaient de leur misère. À la fin du premier mois, Pascal songea aux gages de Martine. D'habitude, elle prélevait elle-même ses 40 francs sur la bourse commune qu'elle tenait. « Ma pauvre fille, lui dit-il un soir, comment allez-vous faire pour vos gages puisqu'il n'y a plus d'argent ?» Elle resta un instant, les yeux à terre, l'air consterné. « Dame, monsieur, il faudra bien que j'attende. » Mais il voyait qu'elle ne disait pas tout, qu'elle avait eu l'idée d'un arrangement dont elle ne savait de quelle façon lui faire l'offre, et il l'encouragea. « Alors, du moment que monsieur y consentirait, j'aimerais mieux que monsieur me signât un papier. »« Comment un papier ?»« Oui, un papier où monsieur, chaque mois, dirait qu'il me doit 40 francs. » Tout de suite, Pascal lui fit le papier, et elle en fut très heureuse. Elle le serra avec soin, comme du bel et bon argent. Cela, évidemment, la tranquillisait. Mais ce papier devint, pour le docteur et sa compagne, un nouveau sujet d'étonnement et de plaisanterie. Quel était donc l'extraordinaire pouvoir de l'argent sur certaines âmes? Cette vieille fille qui les servait à genoux, qui l'adorait surtout, lui, au point de lui avoir donné sa vie, et qui prenait cette garantie imbécile, ce chiffon de papier sans valeur, s'il ne pouvait la payer. Du reste, ni Pascal ni Clotilde n'avaient eu, jusque-là, un grand mérite à garder leur sérénité dans l'infortune, car ils ne sentaient pas celle-ci. Ils vivaient au-dessus, plus loin, plus haut, dans l'heureuse et riche contrée de leur passion. À table, ils ignoraient ce qu'ils mangeaient. Ils pouvaient faire le rêve de mets princiers servis sur des plats d'argent. Autour d'eux, ils n'avaient pas conscience du dénuement qui croissait, de la servante affamée nourrie de leurs miettes. Et ils marchaient par la maison vide comme à travers un palais tendu de soie regorgeant de richesses. Ce fut certainement l'époque la plus heureuse de leurs amours. La chambre était un monde, la chambre tapissée de vieilles indiennes, couleur d'aurore, où ils ne savaient comment épuiser l'infini, le bonheur sans fin d'être au bras l'un de l'autre. Ensuite, la salle de travail gardait les bons souvenirs du passé, à ce point qu'ils y vivaient les journées, comme drapés luxueusement dans la joie d'y avoir déjà vécu si longtemps ensemble. Puis, dehors, au fond des moindres coins de la souliade, c'était le royal été qui dressait sa tente bleue, éblouissante d'or. Le matin, le long des allées embaumées de la pinède, à midi, sous l'ombre noire des platanes, rafraîchie par la chanson de la source, le soir, sur la terrasse qui se refroidissait ou sur l'air encore tiède, baigné du petit jour bleu des premières étoiles. Ils promenaient avec ravissement leur existence de pauvres, dont la seule ambition était de vivre toujours ensemble, dans l'absolu dédain de tout le reste. La terre était à eux, et les trésors et les fêtes et les souverainetés du moment qu'ils se possédaient. Vers la fin d'août, cependant, les choses se gâtèrent encore. Ils avaient parfois des réveils inquiets au milieu de cette vie sans lien ni devoir, sans travail, qu'ils sentaient si douce, mais impossible, mauvaise à toujours vivre. Un soir, Martine leur déclara qu'elle n'avait plus que 50 francs et qu'on aurait du mal à vivre 2 semaines en cessant de boire du vin. D'autre part, les nouvelles devenaient graves. Le notaire Grand-Guillot était décidément insolvable. Les créanciers personnels eux-mêmes ne toucheraient pas un sou. D'abord, on avait pu compter sur la maison et deux fermes que le notaire en fuite laissait forcément derrière lui. Mais il était certain, maintenant, que ses propriétés se trouvaient mises au nom de sa femme. Et, pendant que lui, en Suisse, disait-on, jouissait de la beauté des montagnes, celle-ci occupait une des fermes qu'elle faisait valoir, très calme, loin des ennuis de leur déconfiture. Plassant, bouleversé, racontait que la femme tolérait les débordements du mari, jusqu'à lui permettre les deux maîtresses qu'il avait emmenées au bord des grands lacs. Et Pascal, avec son insouciance habituelle, négligeait même d'aller voir le procureur de la République pour causer de son cas, suffisamment renseigné par tout ce qu'on lui racontait, demandant à quoi bon remuer cette vilaine histoire, puisqu'il n'y avait plus rien de propre ni d'utile à en tirer. Alors, à la Souleyade, l'avenir apparut menaçant. C'était la misère noire, à bref délai. Et Clotilde, très raisonnable au fond, fut la première à trembler. Elle gardait sa gaieté vive tant que Pascal était là. Mais plus prévoyante que lui, dans sa tendresse de femme, elle tombait à une véritable terreur dès qu'il la quittait un instant, se demandant ce qu'il deviendrait à son âge, chargé d'une maison si lourde. Tout un plan l'occupa en secret pendant plusieurs jours, celui de travailler, de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, avec ses pastels. On s'était récrié tant de fois devant son talent singulier et si personnel qu'elle mit Martine dans sa confidence et la chargea, un beau matin, d'aller offrir plusieurs de ses bouquets chimériques aux marchands de couleurs du cours Sauvert, qui était, affirmait-on, en relation de parenté avec un peintre de Paris. La condition formelle était de ne rien exposer à Plassans, de tout expédier au loin. Mais le résultat fut désastreux. Le marchand resta effrayé devant l'étrangeté de l'invention, la fougue débridée de la facture, et il déclara que jamais ça ne se vendrait. Elle en fut désespérée. De grosses larmes lui vinrent aux yeux. À quoi servait-elle? C'était un chagrin et une honte de n'être bonne à rien. Et il fallut que la servante la consolât, lui expliqua que